Alors, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, donc c'est un démarrage un peu en côte. Vous êtes venus donc dans cette paroisse pour recevoir un mariage religieux. Je crois que vous êtes tous baptisés. Il n'y a pas de personne non baptisée ici? Comment?
Je me dénonce aussi.
C'est pas que vous vous dénoncez. Mais vous étiez là dimanche? Ah, vous l'avez.
Non, je n'étais pas là dimanche.
Vous n'étiez pas là dimanche. Très bien. Donc, quand vous n'êtes pas baptisé, le lien, nous le verrons, hein, le lien est quand même sacré et indissoluble. Hein, et ça, c'est très important à relever. Et quand les deux sont baptisés, il y a des grâces particulières. Je ne dis pas supplémentaires, différentes. Vous voyez. Dans l'introduction que j'avais fait dimanche, j'avais bien dit que si vous venez jusqu'à l'église catholique, c'est que vous souhaitez un mariage religieux. Et donc, qu'il soit avec un non-baptisé ou un baptisé, un protestant, un orthodoxe, un catholique, un juif, un hindou, un animiste, le mariage a une réalité sacrée. Je ne peux pas vous refaire tout ce que j'ai dit dimanche. C'est, si vous voulez, la volonté créatrice de Dieu de la matière, de la plante, de l'animal jusqu'à l'homme, qui est l'intersection entre les anges et la matière animée. La matière et la matière animée. Et donc, nous devons actuellement nous opposer à une forte propagande, si vous voulez. J'appelle propagande parce que c'est systématique et général. Le fait que l'évolutionnisme soit imposé comme une religion avec ses dogmes. Donc, il y a un conflit entre ce que nous croyons être la vraie religion et des fausses religions. Et parmi les fausses religions, vous avez un évolutionnisme qui est fondé sur le hasard, la nécessité, la sélection naturelle et le temps, les millions d'années. Donc vous avez en permanence, sur n'importe quel média ou sur France Info, encore hier j'entendais, l'évolution a fait que, alors je ne sais plus quel exemple c'était sur des insectes, je crois que les insectes avaient été transformés par l'évolution. Eh bien, dans la religion biblique, tradition biblique, Dieu n'est pas le temps, Dieu n'est pas le hasard, mais Dieu est un être intelligent et volontaire qui donne aux anges cette capacité d'aimer. Et un tiers des anges ont refusé cet amour, donc on les appelle des démons. Et à leur tête se trouve Lucifer, qui était un chérubin, c'est-à-dire un ange d'une très grande connaissance, et qui justement a voulu être à l'égal de Dieu. Et ensuite, cette volonté créatrice a été magnifiée par un chef-d'œuvre qui est l'union de la matière et de la nature animale et de la nature angélique dans la nature humaine. Et l'intelligence et la volonté et l'amour dont on est capable nous permet justement de nous aimer à travers les années, contrairement aux animaux. Et il n'y a pas d'exemple de couple d'animaux qui soit fidèle, sauf les manchots empereurs. Bon, s'il y en a un qui a été mangé entre-temps, il se remarie, hein, il n'y a pas de problème. Et puis quelques autres exemples, deux ou trois à travers le monde, qui sont dérisoires par rapport à l'amour spirituel. Cet amour spirituel que nous avons, vous le ressentez en ce moment dans votre couple. Tout d'un coup, une personne en particulier devient très importante, et vous voulez partager votre vie avec elle. Sauf que cet amour est au-delà de l'instinct animal. Et ce n'est pas une question de millions d'années, Et vous pourrez faire des documentaires de plusieurs heures sur les bonobos, vous n'arriverez pas à avoir des mariages avec la belle famille, avec les grands-parents. Non, ça ne marche pas. Et pourquoi j'insiste tant sur cette question? C'est pour que dans les prochaines années, vous vous souveniez de cette préparation de mariage un peu originale et un peu, fondamentaliste, comme je disais le dimanche, et qui permet aussi de vous poser de véritables questions sur votre nature. Et donc, si Dieu est un être intelligent qui se soucie de chaque être, et s'il est un père, alors on a un devoir heureux, une heureuse dépendance vis-à-vis de lui, parce que c'est un père qui n'a pas les défauts que peuvent avoir des parents. C'est un père exigeant, c'est un père qui nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes, mais très spirituellement, pas pour réussir des concours et pour avoir une situation, ou comme des bons parents japonais qui poussent au suicide leur fils parce qu'il doit travailler toute sa vie pour absolument gagner, avoir les meilleures écoles de Tokyo. Voyez-vous, Dieu est un père, lui, qui veut pour nous la paix. La paix et la communion. Or, dans le mariage, vous allez choisir une personne dans votre vie. Vous allez choisir une personne dans votre vie pour vivre en paix avec elle, non pas pour vivre tranquille avec elle, mais pour vivre en paix, c'est-à-dire pour avoir des relations paisibles, mais des relations peut-être enrichissantes, pour affronter ensemble les événements heureux et difficiles de la vie, pour partager à deux cela. Et on le voit actuellement d'ailleurs dans la vieillesse, parce que le soutien mutuel, qui est une des forces profondes du mariage humain, se déploie dans ces moments où l'un est très fatigué et épuisé, ou par une maladie alors qu'il est jeune, ou par la vieillesse. Et donc ce Dieu a voulu permettre aux êtres humains de s'aimer les uns les autres, de se respecter. On respecte des parents qui nous ont transmis leur connaissance, leur amour, leur présence. Le péché originel a introduit la mort. Je vous parlais dimanche du premier meurtre, c'est-à-dire Abel qui est tué par Caïn, et Adam et Ève qui voient le premier corps mort, sans âme. Et Caïn, lui, dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Je n'ai pas... Il refuse, il ment sur ce meurtre, mais on ne peut pas cacher à Dieu quoi que ce soit. Et donc, l'histoire biblique, le mariage est décrit de manière très concrète et très réaliste. C'est-à-dire que les hommes abusent de leur pouvoir, de leur puissance, de leur force, et ce sont eux qui, dans le mariage, la plupart du temps, peuvent imposer aux femmes, à leurs épouses, des exigences particulières. Et la première exigence particulière que les hommes ont inventée, c'est la polygamie. Et donc, Dieu va transmettre sa volonté dès le commencement, et du temps de Noé, je vous ai averti pour les nouveaux, hein, je suis fondamentaliste, hein, donc bon. Pour moi, ce sont des personnes historiques, hein, ce ne sont pas des légendes. Donc du temps de Noé, vous avez 8 personnes qui sont sauvées du déluge et ils sont monogames. Les 3 sont monogames. Hein. Sem, Cam et Japhet. Sem a donné les Sémites. En ce moment, on en parle beaucoup. Ensuite, vous avez Japhet qui, lui, part plutôt vers l'Occident. Et vous avez Cam qui lui parle, reste plutôt en Arabie, tout ce qui est actuellement Jordanie, mais aussi un peu Irak, mais il y a des Sémites et il y a des Cananéens. Parce que Cam a un enfant, Canaan, qui donnera les peuples d'Afrique. Alors dans mon explication qui est fondée sur un dogme catholique et qui n'est pas ébranlée par l'évolutionnisme, ou surtout pas d'ailleurs, je vous disais que la preuve, une des preuves scientifiques, et j'ose le dire, hein, de la religion, c'est que quelle que soit la couleur de notre peau et nos cheveux, nous avons exactement le même ADN et que le séquençage des acides aminés dans l'ADN fait qu'on a la peau noire, qu'on a le nez plat ou le nez pointu, comme disent les Chinois quand ils se moquent de nous, hein, nez pointu, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est les enfants, hein, les enfants chinois, ils doivent avoir une expression plus particulière en chinois. Et donc, cette unité du genre humain remonte à un couple originel qui était sexué. Adam était un homme, Ève était une femme. Il n'y a pas un hermaphrodite premier qui s'est divisé. Nous avons été créés sexués. Et le mariage est totalement lié à cette différence corporelle. Et donc, la différence avec les animaux et les rencontres fortuites et temporaires, quoique vous avez des oiseaux qui restent ensemble longtemps jusqu'à ce que les oisillons soient, autonomes, et vous avez des mâles qui restent plus longtemps que d'autres mâles. Cette belle connaissance que vous pouvez avoir dans les documentaires animaliers sur les insectes, sur les oiseaux, sur les animaux, est très importante parce que contrairement aux commentaires qui les accompagneront, vous verrez une très grande richesse imaginative de Dieu pour vous montrer un instinct qui ne peut être que le résultat d'une volonté intelligente chez ces êtres. Vous voyez ? Je vous parlais des nids des oiseaux, je vous parlerai aussi des toiles d'araignées, par exemple, qui sont des petites merveilles. Je vous parlerai de la manière dont certains êtres ont un odorat extraordinaire, voyez, par rapport aux phéromones, par rapport aux éléments qui sont dans l'air. Tout cela ne peut pas venir du temps et du hasard. Alors, si cela vient d'un être intelligent, c'est la raison pour laquelle toutes les religions reconnaissent un être suprême et intelligent. Et donc, la question est de savoir s'il est entré en communication avec ses créatures et comment. Ça, c'est la religion. L'existence de Dieu est quasi unanime à travers les siècles. Il faut attendre le XXe siècle ou des Spinoza au XVIIe siècle, les années 1600, je crois, si je ne me trompe pas. Un athéisme militant est très très rare. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Le plus ne peut pas venir du moins. Vous avez je vous disais dimanche, excusez-moi, je le répète rapidement, nos yeux sont là pour reconnaître les longueurs d'onde des photons et le transmettre à un nerf optique qui ensuite le rend en image dans notre cerveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité de la chose. Et comment le hasard pourrait produire des yeux, et un nerf optique, et un cerveau. Comme des branchies au poumon. Hein. Comment cela peut se faire par hasard? Mais ce soir, j'aimerais justement nous venir jusqu'à cette religion d'Abraham, qui a la religion adamique, et qui lui-même vit en Irak, en Chaldée. Et depuis Noé, vous avez les hommes qui ont fini par être polygames. Dieu ne demandera pas à Abraham de ne plus être polygame. la coutume humaine s'est ancrée, Dieu va tolérer la polygamie pour une raison très naturelle. Le mariage est lié à votre sexualité. Même si vous pouvez vous marier à 85 ans, le mariage est lié à l'acte sexuel intégral, c'est-à-dire la verge de l'homme qui se durcit et peut pénétrer dans la femme pour déposer la semence. C'est une description toute simple de ce qui se passe chez beaucoup d'espèces de créatures. Et le mariage, c'est ça. Je dis, c'est ça. Oui, mais par deux êtres spirituels. Avec des enfants, lorsqu'on n'est pas stérile, qui sont très complexes et qui demandent une éducation sur des années. Et ce qui, à nouveau, est totalement différent du monde animal. Le petit de l'être humain n'est pas du tout autonome avant un temps considérable par rapport à toute espèce. Donc, il y a une volonté divine particulière chez la nature humaine. Et donc, l'enfant attend un père et une mère, attend l'amour, attend la connaissance, la protection, la nourriture et le vêtement, d'être lavé, et tout cela pendant des années. Quand vous êtes polygame, vous savez qui est le père, qui est la mère. À la limite, si Dieu avait laissé la polygamie jusqu'à maintenant, on pourrait par test ADN savoir qui est le père pour une polyandrie. La polyandrie, c'est plusieurs hommes pour une seule femme. Vous voyez ? Seulement, les hommes, dans leur nature, n'acceptent pas d'être en concurrence avec d'autres hommes. La polyandrie n'a jamais percé, à part quelques endroits dans le monde, peut-être 3 ou 4 lieux, peuples, ou peuplades plutôt, où vous avez un matriarcat et une polyandrie. C'est extrêmement rare. Abraham est un homme très pieux et qui refuse une décadence aussi de la religion naturelle, qui est la crainte de Dieu, la crainte de la maladie, de la mort, des catastrophes naturelles et des mauvaises récoltes, au point de faire des sacrifices humains. Et donc, du temps d'Abraham, les sacrifices humains étaient tout à fait ordinaires, comme on les verra chez les Aztèques, par exemple, chez les Toltèques aussi, chez les Chimèques aussi, enfin, les peuples d'Amérique qui étaient extrêmement, à la religion, extrêmement rustre et brutale. Voyez, même si certains vous faisaient le calendrier jusqu'à 2012, voyez, et connaissaient les positions des étoiles à la perfection, eh bien, ces religions étaient extrêmement brutales. Dieu va appeler Abraham à garder la religion d'Adam. Et donc, il va lui parler et il va lui dire « De toi va naître un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable de la mer. » Abraham va partir jusqu'à la Terre Sainte, jusqu'à la Palestine, où il va acheter un terrain près de Salem, qui donne à Jérusalem. Alors je vais faire vite, je crois que j'en ai parlé dimanche. Et donc, Abraham, Dieu lui parle comme vous et moi, c'est un miracle, comme Bernadette, comme la Vierge Marie a parlé à Bernadette, comme notre Seigneur a parlé à Sainte Marguerite Marie en 1689 à Paray-les-Moniales, comme le Padre Pio parlait avec son ange gardien ou avec notre Seigneur. Si vous voulez, ces miracles ne sont pas légendaires parce qu'ils se reproduisent maintenant. Et Dieu dit à Abraham qu'il va avoir un enfant. Il n'a pas d'enfant et sa femme vieillit et il n'a toujours pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une femme de second rang. Polygamie. qui s'appelle Agar. Elle est féconde, elle lui donne Ismaël et ensuite d'autres enfants. Mais Dieu parle à nouveau à Abraham et lui dit « Je t'ai fait une promesse, elle est particulière, elle va s'accomplir. » Et là, vous avez Sarah qui entend la voix de Dieu, donc ce n'est pas un miracle intérieur, c'est un miracle extérieur, et elle rit parce qu'elle a 80 ans. Et Abraham en a 90, mais bon, les hommes sont féconds très tard. Et donc, Dieu dit, eh bien, puisqu'elle rit, elle s'appellera joie, il s'appellera rire, Isaac. Oui. Et un an plus tard, enfin 9 mois plus tard, Isaac va naître. La femme de second rang va être jalouse, Ismaël va houspiller son petit frère, et Sarah va demander à ce que Ismaël et Agar soient chassés. Et donc, Abraham, la mort dans l'âme, va chasser sa seconde épouse. Les mœurs sont très dures. Hein. Et donc, elle part avec Ismaël, à moins qu'elle n'ait eu que Ismaël, parce qu'elle part uniquement avec lui, elle est dans le désert, elle va mourir de soif avec Ismaël. Et là, vous avez l'archange Raphaël qui leur apparaît et qui leur indique une source. Et qui dit à Agar, Ismaël ne mourra pas, mais il sera le père de nombreux peuples très durs, comme un âne sauvage, un onagre. Vous voyez ? Et Ismaël, ça a donné les peuples sémites d'Arabie. Vous avez des peuples cananéens de Cam. Vous avez Noé, Cam, Sem, Japhet. Cam donne Canaan. Et les Cananéens, vous voyez, la bande de Gaza, les Palestiniens, sont des descendants d'Ismaël ou des descendants de Canaan. Vous voyez. Et ils se font la guerre depuis environ 3000 ans. 3200 ans. Voilà. Bon, c'est pas près de finir. Hein. Et donc, vous avez Ismaël qui donnera les tribus sémites. Vous avez des tribus saoudiennes qui sont sémites. Donc, ce sont des cousins d'Isaac. Et ce qui fait que Isaac, lui, va avoir comme enfant Jacob, et Jacob va avoir 12 enfants. Et ces 12 enfants vont faire les 12 tribus. Jacob, à un moment donné, Dieu va lui conforter dans la mission de sauver le monde, d'avoir une descendance spirituelle et religieuse par Abraham. Et donc, il va avoir des apparitions de Dieu, dont une, un ange va lui apparaître et va lui le conforter dans la promesse. Et avant que l'ange ne parte, Jacob lui demande sa bénédiction. Et là, l'ange lui dit, je ne te la donnerai pas. Pour cette fois-ci, je ne la donne pas. Bon. Alors, Jacob le retient, mais si, donne-moi ta bénédiction. Et là, il y a un combat entre l'ange et Jacob. Donc, dans l'iconographie, dans l'art, vous pourrez voir, vous avez le combat de l'ange et Jacob. Mais c'est un combat très important parce qu'à un moment donné, l'ange arrête, dit, tu as le désir de Dieu, tu as le désir des grâces de Dieu, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, fort face à Dieu. Vous voyez ? Et là, il lui coupe le nerf sciatique. Vous voyez, enfin, c'est un faux corps, hein, c'est un corps d'emprunt, c'est un ange. Et là, Jacob tombe au sol. L'ange le bénit et disparaît. Vous voyez. Et il va boiter toute la fin de sa vie. Vous voyez. Je crois qu'on l'appelle le nerf de Jacob. Hein, c'est un nerf. Voilà. Et donc, Jacob, lui, Israël, va avoir ses enfants. Et à un moment donné, Dieu va susciter une famine pour pousser son peuple à grandir en Égypte. Je vous passe Joseph, Benjamin, tous les enfants des tribus d'Israël, et ils se rendent en Égypte. Là, ils vont rester près de 450 ans. Et ils vont se multiplier de manière extraordinaire. C'est-à-dire que les femmes juives avaient entre 17 et 20 enfants dans leur vie. Vous avez, ça vous semble, oh ben, oh, décidément, oui, c'est fondamentaliste. Mais vous avez la Sainte Catherine Labouré, sa mère a eu 17 enfants. Voilà. Et, mais les femmes juives, dont, dont plus de la moitié sont mortes, sont mortes avant l'âge de 5 ans, hein. Eh bien, vous avez les femmes juives qui gardaient leurs enfants. Alors au début, comme le fils de Jacob Israël, Joseph, avait rendu un grand service au Pharaon, les vaches maigres et les vaches grasses, c'est là, il avait prophétisé qu'il y aurait 7 années d'abondance, où il fallait tout garder, parce qu'il y aurait 7 années de famine. Les vaches grasses, les vaches maigres. Et donc, Pharaon avait donné à Joseph et à sa famille des privilèges. Mais comme ils étaient éleveurs et que c'était des sortes d'intouchables pour la religion égyptienne, ils étaient dans le nord du pays. S'occuper des moutons, tout ça, enfin, ça sent pas bon, c'est pour les esclaves, c'est pour... et les Hébreux le faisaient. Hébreux, c'est parce qu'un ascendant d'Abraham s'appelait Héber. Et donc, tout cela se fait pendant ces années, et à un moment, les Égyptiens sont paniqués, les Hébreux sont extrêmement travailleurs et pacifiques, il n'y a aucun problème, et pourtant les Égyptiens sont jaloux, et donc ils vont les réduire en esclavage au bout de 450 ans. Et le roi d'Égypte de l'époque va décider de faire mourir tous les bébés mâles, pour diminuer leur nombre et en tout cas leur force. Alors qu'ils n'étaient pas du tout soldats, hein. Ils ne maniaient absolument pas les armes, les Hébreux. Ce qui fait que vous avez Moïse, qui est un petit bébé, et sa maman est doit le cacher, sinon on casse la tête de tous les petits garçons. Elle le met dans un petit couffin, un panier d'osier, et comme elle était une esclave de la fille du Pharaon, elle met le panier dans les joncs, sur le bord du Nil, près de la fille du Pharaon qui prend son bain. Et elle fait chercher le panier. Oh, un petit Hébreu. Et comme marque de l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu, ils étaient circoncis. Et donc, oh, un petit Hébreu, il est circoncis, l'Égyptien n'était pas circoncis. On va le garder. Et là, prenez une femme, comment dire, une nourrice. Et sa mère se propose de nourrir l'enfant. Donc c'est sa propre mère qui s'occupera de Moïse. Mais il sera quand même à la cour du roi. Il va apprendre toute la culture égyptienne, toute l'écriture égyptienne et les écritures, bien sûr, hébraïques, qui étaient plus rares. Et là, à un moment donné, Moïse voit ses frères maltraités, frappés, tués, et il défend un juif, et enfin un hébreu, parce que Judas donnera le nom de juif plus tard, et comment dire, du coup il est chassé de la cour, parce que ce meurtre, il tue un égyptien pour protéger un hébreu. Et là, il part dans sa belle famille, et il fait paître des moutons sur le mont Sinaï. Ça vous dit quelque chose peut-être? Et donc à un moment donné, il voit un buisson qui brûle, qui brûle, qui brûle, mais qui ne tombe pas en cendres. Toutes les brindilles de ce buisson restent dans ce feu, intactes. Alors il s'approche et là il y a une voix qui sort du buisson et qui lui dit « Retire tes chaussures, car ce lieu est saint. » Et retire ses sandales. Il arrive jusqu'au buisson et là il lui dit « Je suis le Dieu de tes pères. » L'immortel. Vous voyez ce feu qui ne consume pas. Et je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 500 ans, hein. Tu vas dire à mon peuple de retourner sur le lopin de terre qu'Abraham avait acheté au chêne de Mambré à Jérusalem. Et là, vous avez Moïse qui dit, il était bègue. Je parle pas bien, comment je vais pouvoir convaincre ton frère Aaron parlera pour toi. Mais c'est toi qui portes la mission. Vous voyez, je vous assurez que moi j'ai vu récemment un monsieur Montagne qui est un entrepreneur dans la presse et tout ça, il est bègue. Vous voyez, et ben il a réussi à vaincre le mépris que peut engendrer cette difficulté de langage. Eh bien, voyez-vous, Moïse, lui, avec cette difficulté de langage, il va avec Aaron et il va à la cour de son roi, enfin c'était un autre depuis, et il lui dit « Let my people go ». Ça vous dit quelque chose? À qui ça ne dit rien? « Let my people go ». Donc, et là, Pharaon, il dit « Non, ce sont des esclaves, ils travaillent, tout ça ». Alors du coup, il ne donne plus la paille aux Hébreux pour faire les briques. Donc ils doivent en plus aller ramasser de la paille et tout ça. Enfin bon, les Juifs sont pas contents, enfin les Hébreux sont pas contents, disent à Moïse, oh ben c'est bien. Et là, Moïse va faire quelques miracles devant Pharaon. Il a un bâton, il le pose par terre et ce bâton prend l'aspect d'un serpent. Et là, le Pharaon n'a pas trop peur. Pourquoi? Parce que les sorciers égyptiens sont des vrais sorciers. Ils invoquent de vrais démons. Et donc, ils font de la vraie magie.